Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et c'était du coup la dernière musique après l'arrivée tant attendue d'une seconde chronique, celle de William. Et William va nous parler de Valence sous l'eau.
Quelle tristesse. Et oui, aujourd'hui, la ville de Valence, en Espagne, porte le plouet de la colère et de la tristesse de ses habitants. 10 jours après les inondations meurtrières du 29 octobre, près de 130 000 personnes se sont rassemblées au centre de Valence pour dénoncer la gestion qu'ils jugent défaillante, pour exiger la démission de Carlos Mazone, le président de la région autonome de Valence. Alors, les slogans sont sévères, mais sans équivoque. Nous sommes couverts de boue. Vous avez du sang sur les mains. Ces mots, écrits sur des pancartes, traduisent la douleur d'une population qui se sont abandonnés, trahis. Car le bilan est lourd, terriblement lourd. 217 morts, 78 disparus. Et pendant que les eaux dévastaient les villages et les vies, la question hante tous les esprits aujourd'hui. Où était Carlos Mazone? Ce jour-là, de 14h30 à 19h, alors que les familles luttaient, littéralement, pour sauver ce qu'elles pouvaient, il se trouvait à un déjeuner professionnel. Une absence qui, aujourd'hui, nourrit la défiance. Une défiance d'autant plus vive que la réponse des autorités fut jugée trop lente et mal coordonnée. Sur les banderoles, on lit « assassin », un mot dur qui reflète le sentiment d'abandon de ces familles qui, depuis plus d'une semaine, doivent compter sur la solidarité populaire pour combler les lacunes institutionnelles. De nombreuses aides arrivent de toute l'Espagne, envoyées par des citoyens désireux de soutenir les sinistrés. On se souvient aussi du passage express du roi et de la reine d'Espagne qui s'étaient fait huer et insulter lors de leur venue sur Valence quelques heures seulement après les inondations. Aujourd'hui, Valence crie et les habitants de cette région meurtrie par la catastrophe méritent des réponses et des actions concrètes. Mais au-delà de cela, ils demandent aussi des comptes, des décisions et des actions qui garantissent que leur douleur, leur colère et leur désespoir soient entendus. À l'heure de ces catastrophes climatiques, de ces catastrophes écologiques, on peut se demander en fait, c'est quoi la suite? Aujourd'hui l'Espagne, demain ailleurs. Comment on peut mieux se préparer? Comment on peut mieux anticiper ces catastrophes? Et finalement, à la fois d'un point de vue écologique, économique et avant tout humanitaire.
Très bonne question pour ce sujet de ce matin qui, je trouve, est complémentaire à ce dont on avait parlé
tout à fait.
Ce matin pour les 1,5. Est-ce que tu as un petit mot à dire, Sarah? Je te sens épicé aujourd'hui.
Je suis assez épicé, mais je vous avoue, c'est peut-être dans les pistes de solutions, ça serait bien. Pour les inondations, il n'y en a pas énormément, encore une fois. C'est souvent. Ça va être mieux développé dans les pays qui sont mieux préparés dans les pays développés, pardon. Puis souvent, moi, je m'étais plus intéressé à des pays en développement comme aux Philippines. Mais c'est aussi dans les pays développés qu'on se dit que ça ne va pas nous arriver nécessairement non plus.
En fait,
donc, des fois, les gens ici sont moins préparés, sont moins aptes aussi. On sait que ça va arriver davantage dans les pays occidentaux, mais je pense qu'il faut juste, dans ce cas-là, il faut juste jamais se dire qu'on est à l'abri, puis d'avoir des mesures préventives. Là, je dirais comme les mêmes solutions qu'un typhon, des tempêtes, ce serait malheureusement de fuir son domicile. Après ça, revenir, peut-être aider aussi les populations qui en ont besoin si vous êtes capable d'un point de vue physique puis d'un point de vue aussi de votre temps que vous disposez pour le faire. Puis, je veux dire aussi peut-être que en Espagne puis dans les cas européens vont recevoir davantage une aide rapide étant donné leur statut ici. Puis ça fait partie des autres inégalités que dans d'autres États, ils vont faire « Ah, mais oui, il y a des gens... » C'est vrai, il y a des gens aux Philippines qui se prennent de l'eau, mais ça arrive 20 fois par année. Je dis un peu de façon très cynique, mais c'est dans le sens arrive, c'est...
On voit ce que tu veux dire.
Les gens vont se mobiliser, le même
pas,
dans
y a,
les...
Il n'y a pas la même entraide, en fait.
C'est
tout
ça.
Tout à fait.
La communauté européenne aussi, on sait que l'Espagne, c'est dans l'Union européenne, vont aller rechercher de l'aide. Ils peuvent aussi le publiciser, ça avait été affiché dans les matchs de soccer aussi. Venez en aide à Valence aussi. Je pense qu'ils ont vraiment autant d'un point de vue étatique, d'un point de vue aussi individuel, puis d'un point de vue citoyen, ils ont des ressources importantes pour pallier à ces problèmes-là.
Tout à fait. Moi, c'est aussi une question. Enfin, c'est une question. Je me sens proche de cette catastrophe à tes souhaits. À tes souhaits, encore une fois.
Désolé. Hein.
Je me sens assez proche de cette catastrophe. Et c'est aussi peut-être un sujet qui est. Enfin, j'ai de la famille espagnole, voilà. Et je me dis quand même que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Valence, c'est une ville qui est extraordinaire. Les gens qui sont à Valence sont aussi extraordinaires. Et j'ai envie qu'ils puissent se reconstruire, et je le souhaite. Et j'espère que cette solidarité nationale et internationale leur permettra de se reconstruire, comme beaucoup de pays qui vivent des catastrophes similaires. Moi, ma question aujourd'hui, quand même, et là, t'évoquais un cas qui était ultra intéressant, qui était, en fait, on vit dans des pays développés, il ne va jamais rien nous arriver. Mmh. Et je pense précisément que c'est également ce genre de catastrophes qui vont nous permettre d'avoir des prises de conscience à l'échelle internationale.
Mais les règles ont changé.
Les règles ont changé. Tu as raison. Mais pour moi, c'est pas seulement prévoir.
C'est les conséquences, en fait.
Mais c'est les conséquences
des actes.
Je suis d'accord.
Il y a eu un manque de considération, un faux semblant, moi, je dirais.
Et demain, on en aura. Demain, on en aura. Mais en attendant, il faut qu'on puisse anticiper ces catastrophes. Là, dans les années à venir, ça va augmenter le nombre drastique de catastrophes.
Mais c'est pas la base du problème.
Non, c'est pas la base du problème. Mais en fait, le problème aujourd'hui...
Le faux semblance, on ne cherche pas à... Je me répète, peut-être que ce discours va paraître... je suis pas communiste, je suis pas dans... Non, les gars, voilà. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et cartésien sur les faits. Actuellement, qu'on le veuille ou non... les publications de l'ONG et de l'ONU sur les dégradations en pollution présentent que les transitions énergétiques n'ont jamais été respectées. Il y a certes un axe d'amélioration, mais qui représente que 20% en plus de 10 ans.
Et tu as raison. Mais tu as raison.
Ça n'a rien de... C'est une conséquence.
Oui, mais
et les personnes qui en sont victimes, c'est les citoyens.
On est tout à fait d'accord. Mais en attendant qu'on puisse avoir des améliorations, des pistes d'amélioration concrètes sur ces questions-là,
Mais il n'y a pas de pistes.
Mais si, il y en a plein.
Il
y en a plein.
La seule piste, ce serait une action. Non.
Croyons nos rêves. Mais bien sûr que si. Non, mais vraiment,
non.
Je suis très sérieux.
Moi, je suis sérieux aussi quand je te parle. C'est pour ça que ça me fâche ce sujet, parce que je te le dis actuellement, si on veut vraiment un réel changement, nous sommes obligés d'imposer une transition, notamment énergétique, pour au moins avoir quelques axes d'amélioration. Parce qu'à l'heure où on parle, notamment, on a les glaces de paroxyle, j'ai oublié, c'est les petits trucs que tu as dû voir sur Internet, les petits glaçons qui peuvent émettre une combustion dans lequel du gaz est concentré, qui sont vus comme une possible énergie d'exploitation par la Chine. Sachant que ça a des conséquences climatiques dévastatrices, c'est ça. Que on puisse encore penser comme ça en 2024, ça montre une chose, c'est qu'il n'y a aucune entité qui porte vraiment le poids et la garantie d'une protection sur cette thématique écologique.
Je le sais.
Donc il n'y a pas, c'est de la légèreté, on prend ce sujet à la légère, on s'en fiche considérablement. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'un début, parce qu'on peut parler des inondations, on peut parler des tempêtes en Floride, mais croyez-moi, il y a pire. Je vous rappelle qu'il y a des conditions climatiques ou des dérèglements climatiques, ou même il y a eu des événements comme le Fukushima ou le tsunami de Fukushima, des gens s'en rappelleront. Imagine que ça arrive en Occident maintenant.
J'entends.
Je fais un rapprochement très bref, mais imagine que ça arrive en Occident.
Mais moi, ma question, c'est...
Personne n'est prêt.
Ça, on pourra pas les... S'il y a des catastrophes, on pourra peut-être pas les...
Personne n'est prêt.
Sur un cadre qui est vraiment proche, sur un avenir proche. Néanmoins, moi, j'ai envie de me dire qu'on puisse... construire en fait de nouvelles villes, de nouvelles opportunités. L'autre fois, je vous parlais d'une ville en Indonésie qui est pensée comme une ville forestière, qui est pensée justement pour pouvoir avoir une ville qui est regroupée sur un environnement forestier, avec une qualité des sols qui est meilleure, avec un projet long terme. Et moi, pour moi, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des villes qui sont des mégalopoles, qui sont construites avec du béton, où en fait, on a une qualité des sols qui ne permet pas d'entraver ces inondations. Ma question, c'est, et j'entends tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais ça, c'est du long terme. Ça va être du travail diplomatique, écologique,
économique.
On est
obligé d'avoir une pensée long terme.
Mais oui, on est obligé. Sauf qu'aujourd'hui...
Parce qu'actuellement, la pensée court terme n'a pas aidé pour ce cas de figure.
J'entends. Mais c'est pour ça que nous, aujourd'hui, et c'est pour ça, nous, les universitaires, on est censé être l'avenir. Donc c'est à nous de nous poser ces questions-là et de dire, OK, on va viser un plan long terme. Mais pas seulement. On va aussi viser du court terme. On va réinventer nos villes, réinventer nos manières de consommer.
Moi, je corrige.
Réinventer notre manière de construire l'avenir. Mais si, mais bien sûr que si.
En fait, je corrigerai ça.
Tu es l'avenir, Ryan.
Oui, mais ce n'est pas à nous de présenter des solutions. C'est à nous de forcer à la considération des solutions. Parce que les solutions, on les connaît déjà.
Mais demain, les politiciens, ça sera nous, les gars.
Les seules raisons sont économiques.
Les politiciens, les travailleurs, les fabricants. Mais les raisons, c'est les gens qui nous écoutent.
Ok, tu vas me dire qu'en 2024... Attends, vraie question que je te pose. En 2024, tu vas me dire que nous ne connaissons pas les solutions pour éviter ça ou pas?
On les connaît.
On les connaît. Pourquoi elles ne passent pas?
Parce que, de toute façon, dans la tête des esprits de nos politiciens actuels, qui sont des, on va le rappeler, des
boomers...
Mais
pas que les politiciens.
Ils n'en ont rien à faire de notre avenir, de leur jeunesse. Ils veulent se contenter de consommer comme si rien n'était.
Non, mais pas que les politiciens.
Mais c'est pour ça que c'est à notre génération de reconstruire, de reconsidérer une autre alternative, de penser une autre société à l'échelle mondiale.
Moi,
on le sait.
Je vais te dire un truc que je trouve qui... Je pense qu'il manque sur plein, pas tous, je ne fais pas une généralité, mais sur plein de sujets qu'on a abordés ici. C'est des vrais, dans le meilleur des mondes, ce serait des institutions qui posent vraiment des restrictions sans permettre ce genre de choses. Parce oui. qu'on arrive en 2024 et que tu as un mec qui te sort, j'ai trouvé des glaçons où il y a du gaz de chiffres enfermés dedans qui ont une combustion assez intéressante. Et qu'il le propose, sachant que ça a des conséquences inimaginables sur la couche atmosphérique terrestre. Je trouve ça.
Mais je vais te dire quelque chose.
Je refuse
de croire qu'il faut une législation, qu'il faut légiférer sur des questions telles pour que les gens puissent se dire non, je vais pas faire ça.
Malheureusement, c'est la vraie vie.
J'entends.
C'est la vraie vie.
J'entends.
Il faut une institution. Moi, j'irai pas jusqu'à dire armée, mais qui pose de lourdes sanctions économiques aux États ou aux entreprises qui permettent ça, et pas des amendes où tu vas payer ta pollution en disant oh c'est un ticket de caisse. Non, moi je parle de choses qui te font couler des entreprises.
Si je peux me permettre, là-dessus, dans certains cours, il y a des enseignants, notamment dans les cours de politique, de relations internationales, pour l'action climatique, tout ça, puis les enseignants demandaient en fait aux étudiants, pensez-vous que ça serait facile si on vous demandait à vous tous, parce qu'on était 100 dans cette cour-là, à quel restaurant vous voulez aller? Puis ça donne des réponses diverses pour chaque personne. Bref, c'est vraiment simplifié, mais quand les grandes instances gouvernementales aussi vont prendre des décisions comme ça, ils vont avoir des cas vraiment spécifiques. Je rapporte souvent le cas de la Chine. La Chine va tout le temps... On parlait là qu'ils ont découvert des glaçons avec de l'énergie. La Chine a besoin d'énergie. C'est of course qu'ils vont en prendre, même si ça va complètement détruire l'écosystème. Puis ensuite, en dessous de ça, il va y avoir des pays à voie de développement. Aussi l'Indonésie, qui est un partenaire ici en hydrocarbures, en charbon, tout ça. Puis eux n'ont même pas encore atteint des fois. Ces pays-là n'ont même pas encore atteint ce stade de consommation dans lequel on est. Puis c'est... Pour le futur, un peu à long terme, là, comme Ryan parlait ici, ça va être extrêmement difficile de mettre des mesures coercitives, des mesures plutôt de surveillance, même des mesures de punition entre chaque État, puisque là, le transfert de technologie, l'Afrique se développe, la Chine investit beaucoup en Afrique dernièrement. Donc, ces pays-là ici vont produire davantage. Des pays comme le Nigeria, qui sont à 250 millions d'habitants, qui vont être à 500 millions d'habitants, en 2050, ils vont avoir des conditions de vie encore bien meilleures, mais ils vont consommer davantage. Donc, ça va encore une fois rééquilibrer cette espèce de rapport de force. Mais en 2050, est-ce qu'on va regarder l'Afrique et on va dire « Ah, man, ça sont quand même bien tirés, mais ils vont consommer. » Puis, ils vont embarquer dans le même jeu que tous les autres États, puis ils vont se faire dire « Arrêtez de consommer. » Cesser de consommer, mais c'est un peu ça qu'ils se font dire. Mais ils n'ont même pas encore commencé encore. Puis nous, on se regarde, puis on se doit se dire de moins consommer aussi. Puis je pense que ça vient aussi peut-être davantage d'une responsabilité individuelle ou citoyenne de dire on peut faire nos efforts, qu'est-ce qu'on a à faire pour diminuer notre empreinte carbone, notre empreinte climatique, peut-être sans s'en culpabiliser, mais aussi... peut-être en se comparant moins avec les autres, mais au moins de se dire qu'on va le faire, parce que dans une perspective, si on regarde ça d'une lunette vraiment globale, c'est sûr que c'est pas très clair. Puis on n'a peut-être pas les solutions. Ben, on a les solutions, mais on veut pas les faire en ce moment, parce qu'on est tous des grands procrastinateurs un peu dans...
Bah, je suis pas d'accord.
Non, mais dans le sens d'un état comme...
On te dit, genre... Ok, si tout le monde dans cette population fait ça, c'est bien, vous êtes écologique. Ok?
Ouais.
Je te vulgarise, c'est vraiment très vulgarisé. On te dit ça comme ça. te dit, tes actions participent au développement durable, fais le tri de tes détritus et tout, tu le fais.
Mm-hmm.
Et à un moment, tu scrolles sur Internet des sujets et autres, et tu tombes sur des rapports de l'OTAN qui te montrent les actionnaires majoritaires des pollutions.
Mm-hmm.
Je suis désolé, t'as plus envie.
Non, mais c'est sûr, mais je parle...
Et je justifie pas cette action d'avoir plus envie.
Non, c'est sûr.
Mais en fait, ça revient au sujet où tu te dis qu'en fait, bah, actuellement, il y a toujours des gens qui ont des droits incommensurables sur cette terre,
ouais.
Et notamment de la polluer. Et moi, personnellement, je pense que nous, on a des autorités qui, en tant que je parle en tant que citoyen du monde ou en tant que citoyen de ta nation, tu as des autorités qui te rétribuent facilement sur ça. Ouais. Mais qu'en est-il des grandes institutions et des gouvernements?
Ben, c'est pour ça, mais dans le sens, la procrastination, c'est pas sur l'échelle.
Mais c'est même pas une histoire de procrastination, non, c'est l'histoire d'une manque de volonté.
Ben, c'est ça, c'est exactement
ça. Moi, je dirais manque de volonté.
Mais c'est dans le sens que, tu sais, on a beau dire à toutes les conventions, à toutes les traités qu'on va signer, mais si on n'arrive jamais, s'il n'y a pas vraiment une force réelle comme une tape sur le doigt ou une punition ou une sanction.
J'ai vraiment envie de rebondir sur ce que tu disais. Peu, c'était vraiment très pertinent. Parce qu'en fait,
ça sera la dernière remarque. Promis, je suis désolé, dernière remarque. Parce qu'après, on doit faire la petite pause.
Promis, la dernière remarque, les jeunes. Moi, pour moi, si demain la Chine avait une catastrophe telle, ben en fait, ils vont vivre le même cas de conscience. C'est-à-dire, non, mais en fait, on est allé trop loin. Et en fait, on va se fabriquer notre
propre. Mais non.
Mais j'en suis persuadé.
J'ai envie de l'Indonésie, répondre, mais j'aime taire.
Non. Et j'entends. Et la dernière chose que je veux dire, c'est j'ai envie de partager cette phrase d'un auditeur qui est en train de nous écouter, qui est en train de se dire non, mais les démagos, quoi.
Qui t'a dit ça?
Personne. C'était juste une petite vanne.
Donne-moi son adresse.
Chers auditeurs, je vous entends.
Ouais, on a aussi besoin d'un.
Ah, on a plus de piles, les jeunes.
On peut plus envoyer les piles. Non, c'était une blague. Allez, tiens, hop, je te coupe ton micro.